respecte des significations et des valeurs qui structurent le passé et qui ainsi contribuent à créer une image de ce passé ayant un intérêt pour nous. Et c'est le pour nous qui est intéressant. C'est un texte de Simmel qui, on sait jamais, on n'a jamais su si c'était un sociologue, un philosophe, un anthropologue. Hein. Voilà. Alors voilà, il ne nous reste plus qu'à commencer, et c'est ce que je vais faire, puisqu'on est à s'intéresser au passé. Intéressons-nous donc au passé. Et le passé, où est-il? Eh bien, il est devant moi, le passé, il n'est pas derrière. Pourquoi? Parce que je le reconstruis. Et je le construis en même temps. Et de ce du fait, du même coup, ben, je reconstruis, je réécris l'histoire. L'histoire en question. Donc, évidemment, ça a évidemment un aspect personnel. Donc, réécrivons, puisque j'ai dit que nous allons réécrire cette histoire concernant le CEP et l'Idéric de l'époque. Alors, il était une fois, il était toutes les fois, et il était toutes les fois quoi? Le centre du plurilinguisme. Le centre du plurilinguisme, c'est quoi? C'est quelque chose qui commence dans les années 70, avec Gabriel Mansi, avec Paul Valt, que vous voyez au bas de là-bas, avec Philippe Poutinia, et un peu plus tardivement, parce que quand même on ne mélange pas tout, hein, il y a ceux qui arrivent les tardifs et les précoces, il y a tout, bon, et Robert Nicolaï. Alors, le centre des plurilinguismes. Le centre des plurilinguismes, c'est un institut, une équipe qui se donnait, je l'ai écrit, hein, donc, qui se donnait pour vocation de comprendre comment s'organiser, comment se structurer les variétés endogènes du français en Afrique, et plus généralement, qui se proposait d'analyser les modalités de la transformation et de la constitution des langues en situation de plurilinguisme. Ça, c'était ce qui était écrit sur les papiers qu'on était... voilà, hein, c'est la carte de visite. Voilà. C'était donc un centre à l'intérieur de l'Idéric. Un peu d'histoire en ce qui concerne les linguistes, puisqu'il s'agit de linguistes. À cette époque-là, à Nice, la linguistique, c'était Pierre Guiraud, qui avait créé le département de linguistique en 68, au forcing contre les lettres modernes. Jankovic, un professeur de linguistique très aimé de ses étudiants à l'époque, très structuraliste et très pédagogue, qui n'avait strictement rien à voir avec les problématiques sociolinguistiques ou autre chose de ce type. C'était un structuraliste et un dialectologue intéressant. Mansi, qui est arrivé en 69 de Dakar avec sa chaire de linguistique africaine sous le bras pour... enseigner la linguistique africaine parce qu'il avait fait une thèse de linguistique africaine, qu'il avait été directeur de Dakar, et puis parce que c'était son truc, quoi. Plus que son truc, c'était son job, son boulot, son travail, quoi. Voilà. Donc c'était ça. Donc finalement, rien de particulier avec une dimension de sociologie, aucun rapport avec les sociologues, etc. Il ne faut pas oublier que nous étions dans une époque où nous étions fiers d'être structuralistes, les petits jeunes comme moi lisaient même tel quel, et des choses comme ça, donc je ne sais pas pour ceux qui connaissent, disons les revues d'avant-garde sur la parisienne, etc. Mais enfin, certainement pas de la sociolinguistique qui n'existait pas à ce moment-là. Voilà. Alors, l'Idéric, à cette époque, c'était donc un centre dans l'Idéric, je dis. Alors, évidemment, un centre, ça produit. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous ne pouvez pas y voir grand-chose, mais en fait, vous l'imaginez, hein, vous avez un bulletin du centre de plurilinguisme, vous avez comme ça une production que développait le CEP, qui est développée très sérieusement, mais aussi très modestement, parce que, bon, il n'y avait pas de moyens, parce qu'on se démerdait comme on pouvait, parce que c'était comme ça. Hein, il n'y avait pas de périodicité, mais enfin, ça contribuait à structurer quelque chose qui allait, d'une certaine façon, se développer. Voilà. Toujours autour de la question du français d'Afrique, parce que Mansi est un africaniste, etc. Voilà. Alors, ce centre, évidemment, c'était une partie de structure, c'était une partie de ce qu'on a appelé, de ce qui était le serein, disons, très vite l'Idéric, évidemment, de Seurin, très vite devenu Lidéric. Et puis, bon, maintenant, intéressons-nous justement un peu à Lidéric, c'est-à-dire au cadre dans lequel le CEP se situait. Lidéric, qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, par exemple, je dirais que c'est une sorte de creuset expérientiel. Avec un mot comme ça, hein, on écrase tout. Hein. Voilà. Un creuset expérientiel à l'intérieur duquel il y avait toute une série d'équipes qui se développaient, que je n'ai pas aidé à construire, mais que j'ai trouvé lorsque j'y suis arrivé 10 ans plus tard, 10 ans après sa création. Une équipe qui, il y avait le GRIM dirigé par Auriol, il y avait le CRIRES dirigé par Raymond Esch, il y avait ce CEP qui nous occupe aujourd'hui, dirigé justement par Mansi. Et puis après, il y a eu effectivement des rattachements plus ultérieurs, mais jamais pris comme on mélange pas. C'est pas une histoire de torchon et de serviette, mais enfin c'est une histoire de ce qui est fondamental, ce qui est légitime et ce qui l'est moins. Jamais pris d'une façon très aussi légitime que les autres. Par exemple, l'équipe des littéraires, de Géricri, un certain nombre de choses comme ça. Voilà. Donc, c'était un creuset expérientiel, c'était aussi, disons, une école de réflexion, parce qu'il y a une histoire commune, ces équipes sociologues, anthropologues, linguistes qui se sont trouvées, connectées, ont bien été obligées de se fréquenter. Ça n'a pas créé, je pense, de mon point de vue, de développement endogène extrêmement merveilleux, mais ça a permis quand même, ça a appris à chacun quelque chose. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup appris. Et dans le même cas, dans le même contexte, dans le même cadre, ces croisements, avec parfois leur frottement, impliquait quand même que nous nous trouvions dans ce que je pourrais décrire comme une structure alors psychodramatogène. Parce que parfois, il y avait des psychodrames qui pouvaient émerger pour les raisons les plus diverses, aussi bien pour des raisons scientifiques que pour des raisons de tout autre ordre, finalement, comme dans tout autre groupe. Mais avec la différence, c'est que ce groupe-là a été conçu, concocté, assemblés, non pas par la base des gens qui ont décidé de le faire ensemble, sauf à l'intérieur de chacun des sous-groupes, mais par une certaine volonté extérieure. C'était intéressant comme expérience. Alors Lidéric, toujours, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc une structure qui, à mon avis, est focalisée sur les problèmes, bien évidemment, interethniques et interculturels, les problématiques. Ces problématiques appréhendées dans leur connexion sociale, dans leur connexion langagière, la dimension politico-sociale y était très importante, ce qui était très loin des préoccupations, par exemple, des membres du CEP, qui ne se posaient pas, qui n'étaient pas du tout dans ce jeu-là, et bon, n'avaient ni rien ni pour ni contre, mais n'étaient certainement pas engagés, comme on pouvait être engagé dans les années 70, des perspectives et des modalités de voir les choses d'un point de vue politique. Hein, voilà. Alors, c'était aussi, disons, et de ce fait même, une structure ouverte, une structure où il y avait des débats d'idées, parfois avec pluriel, parfois sans pluriel d'ailleurs, hein, et aussi un apprentissage d'une certaine pratique interdisciplinaire, donc j'y reviendrai certainement. Je dirais que finalement, c'était quoi ? Une entité, moi, alors je la définis comme ça, une entité emblématique des équipes en perpétuelle confrontation, je pense que j'y reviendrai. Alors confrontation, comme je viens de dire, c'est à tous les niveaux que ça se situe, c'était très vivant, Lidéric. Et malgré tout, voilà, il y a des choses, des papiers, quelques traces, ça, je trouve que quand j'étais directeur, j'avais lancé ces trucs-là, mais aussi, c'était aussi autre chose, c'était un déni niçois. C'est-à-dire que Lidéric a toujours passé son temps à se battre contre l'université qui avait tendance à penser que, pour des raisons les plus qui sont maintenant tellement vieilles qu'elles sont oubliées, que Lidéric posait problème. Enfin, voilà. toute façon, un déni niçois qui a finalement conduit jusqu'à sa belle mort, d'une certaine façon. Voilà ce que je peux dire pour Lidéric. Un déni niçois, et alors, était-ce une constante culturelle du pays niçois? Je ne sais pas, en tout cas, c'était un fait. Comme je vous ai dit, l'histoire, nous la réécrivons. Alors, revenons maintenant au centre du plurilinguisme, puisque c'est quand même ça. Alors, le centre du plurilinguisme, qu'est-ce que c'était? Eh bien, pour moi, c'était un lieu de découverte. De découverte de tas de choses. Découverte de la variation langagière. Vous entendiez quand je n'étais pas dans le... Oui. Ah, ben ça va, c'est pas la peine de s'emmerder avec ça. Hein? Découverte de la variation langagière. En tant que vecteur de reconstitution linguistique, d'un côté, découverte de la dimension sociolinguistique et des dynamiques linguistiques. Comme je vous ai dit, au départ, les linguistes niçois n'étaient pas du tout concernés par ces approches-là. Découverte du mixage en tant que facteur de réorganisation linguistique. Lecture des créolistes, des créoles, des sociolinguistes. Donc tout un pan d'une linguistique qui était en train de se faire et de se générer dans les années 70, qui était toute nouvelle. On faisait ça aux États-Unis, et puis même à Nice aussi, donc avec quelques années de retard quand même, on le faisait. Mais il y avait peu de monde en France qui le faisait. Donc en fait, on a appris beaucoup de choses. Et voilà, c'était ça. C'était aussi, disons, un espace de contact. Un espace de contact et, disons, également, donc compte tenu de la nature de ce qui était traité, c'était manifestement un espace de contact, mais aussi un centre de gravité, on peut dire ça comme ça, pour les thésards et pour des jeunes chercheurs dans la discipline. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y avait certaines dimensions conjoncturelles qui sont importantes à pointer. Il y avait la coopération française. Bon, coopération française, ça voulait dire qu'on avait des jeunes qui, au lieu de faire la service militaire, allaient faire de l'enseignement, ou si vous voulez, là-bas. Et parmi ceux-là, un certain nombre avaient le désir de se rapprocher, en fait, d'avoir une connaissance, enfin, d'être plus près du milieu d'où ils allaient. Et en particulier, au point de vue linguistique. Donc, il y avait donc comme ça une sorte de vivier de jeunes thésards issus de ou allant en coopération ou revenant en activité sous la direction de Mansi ont développé toute une série de travaux sur le français en Afrique, etc. Ça a donné le premier matériau qui s'est développé au centre de cette équipe que Mansi animait avec énormément de qualité, en ce sens qu'il n'était pas du tout, il ne forçait jamais les gens, il était extrêmement méticuleux, extrêmement rigoureux, et ça marchait très bien. Donc c'était ça. Et on voit là, à partir de là comment le CEP pouvait commencer à s'insérer dans un cadre idéricien qui lui poser le problème général du contact des migrations, de l'autre, si on dit, hein, avec un grand A, etc. C'était aussi la formation des cadres africains. À la même époque, on commençait à former, entre guillemets, je ne rentre pas dans le détail de si c'est bien, si c'est mal, si c'est ça, si c'est du bidon, si c'est... Ça, c'est pas là le problème. Mais enfin, disons, il y avait cette activité-là de jeunes Africains qui venaient chez nous faire des thèses, et donc avec Mansi, en général, des thèses sur leur langue, ou des thèses sur ça. Et on avait donc là un autre vivier de thésards, en fait, donc un flot continu de jeunes chercheurs, de futurs enseignants, qui se trouvaient alimentés, développés, une activité de recherche impliquant le contact des langues, impliquant une réflexion sociolinguistique, dans ce domaine, dans ce cadre idéricien. Alors voilà, c'est un premier point. Mais disons, on peut s'intéresser, aller plus loin, et chercher quels sont les marquages essentiels de ce step. Et les marquages essentiels, il y en a plusieurs. Hein. Il y a tout d'abord le croisement initial avec Paul Wald. Paul Wald, eh bien, bah, il n'y avait rien. Pour un linguiste, c'était un illustre inconnu. Paul Wald, c'est un psychosociologue arrivé là, qui nous apprenait des choses, qui n'était pas intégré dans le département de linguistique, qui n'avait donc. Mais. Donc, on pourrait se demander ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu une rencontre particulière entre Paul Wald et Gabriel Mansi sur les problématiques qui étaient celles des Français d'Afrique, de ce Français qui n'était pas net, de ce Français qui variait tout le temps, donc il n'y avait pas de normes à cette époque, on ne travaillait pas la question de normes de la même façon, etc. Et un jour, je demandais à Gabriel Mansi, mais pourquoi vous êtes, parce que on se voyait, hein, c'est pas une époque, quoi. Voilà, pourquoi vous avez, pourquoi Paul Wald? Ben il m'a dit, ben parce que je lui ai demandé de m'aider à comprendre. On avait ces problèmes de français en Afrique, hein, compte tenu de sa spécialité, d'aider à comprendre comment on pouvait rendre compte, comment on pouvait analyser tout ça. Et je pense que le jeu a pris, que la sauce a pris, que la mayonnaise a pris, puisqu'il paraît que la mayonnaise doit prendre. Et puis voilà. Alors au départ, il y a ce rapport, ces espèces de questions que Mansi a demandées à Paul Wald et qui ont fait démarrer l'équipe et qui ont fait démarrer le CEP à partir de ce groupe de deux personnes de qualité. Tout ça avec, ça a donc introduit des opérations communes, des recherches de financement, des projets en continu. Parce que, voilà, hein, parce qu'alors, à cette époque-là, il fallait, enfin, bon, ça n'a pas beaucoup changé au niveau de l'administration. Il y a des recherches de faire des... Essayer d'obtenir une RCP, essayer d'avoir une ATP, essayer d'avoir de l'argent, essayer de voir avec le CNRS, parce que Paul Wald ayant fini par être au CNRS, l'accrochage et la potentialité de l'accrochage étaient importantes et évidentes. Voilà, et ça a donné toute une série de rapports. De rapports, de tout ça, qui ont un jour conduit à ce qu'on pourrait appeler ben, cet horizon de l'URA 1235, mode d'appropriation langagière, qui est une équipe CNRS née du développement du CEP et à l'intérieur du CEP. Et disons, c'était en fait l'aboutissement, parce qu'en fait, il était. C'est tout, d'accord. Bon. Alors, voilà. Donc, il y a eu donc, comme ça toute une série de travaux. Alors, si on essaye un peu de voir les choses de plus près, au niveau du CEP, on voit une sorte de parcours que j'appellerais un parcours centrifuge, du centre vers les marges, avec un recentrement vers une problématique qui inclut toute une série de choses linguistiques, sociolinguistiques, psycholinguistique, donc les trois dimensions dont je viens de parler, à l'intérieur de notre cadre, qui introduit les marginaux, comme moi, avec la dialectologie, un certain nombre de choses, analyse du discours, ça c'est pas moi, jeunesse des langues, alors là, à l'époque ça pouvait être plutôt moi, et puis ensuite même une réflexion qui est plus globale sur la dynamique du groupe, la place du sujet à l'intérieur de la dynamique linguistique elle-même. Et alors cela mène, si vous voulez, à un moment de plénitude, hein, j'appelais ça le moment de l'acné, avec un colloque qui a lieu en 1887, sur les contacts de langue. Un colloque très important à une époque où personne n'abordait vraiment ces questions-là. On arrive au maximum où nous sommes arrivés dans ce cadre-là, avec d'une part le CEP, qui a émergé et qui s'est stabilisé dans cette structure de l'URA 1237. Corrélativement, la création d'un groupe de recherche, le GRIL, marginal par rapport à, au truc. Et puis même, si vous voulez, le CNRS ajoutant encore sa, son poids là-dedans, la greffe d'un laboratoire de Sophie Antipolis qui s'appelle le Lahore, qui n'avait strictement rien à voir avec l'Idéric, mais qui a émergé à ce niveau-là. Et quand on, vous savez bien, quand on arrive au moment de l'acmé, ben après ça retombe. Alors il y a le jeu du miroir, je peux dire comme ça, on, au moment où on s'est mis à réfléchir, des réfractions, réfléchir par rapport à soi, réfléchir à tous les niveaux du terme, essayer de se voir, de voir comment nous pouvions être, qu'est-ce que nous faisions, etc. Et par exemple, je prends juste un petit exemple pour montrer ce, qui n'a aucune, pour montrer ça, la question du changement linguistique. C'est une histoire de linguiste. Mais le changement de linguistique, je dis ça parce qu'il y avait eu un petit volume qui avait été édité sur ce sujet-là par Paul Waldemansi. Le changement linguistique, qu'est-ce que c'est? Pour moi, le changement linguistique, c'était clairement une histoire de linguiste. C'était, ça concernait les mots, le changement des phrases, etc. Bon, enfin, c'était très technique. Et j'ai été particulièrement étonné, pas effaré, parce que bon, enfin, c'est phare, je ne m'effare pas comme ça si facilement, mais étonné quand j'ai vu Paul Val arriver en disant, ben voilà, on va faire un truc sur le changement linguistique. Je lui dis, ah, changement linguistique. Sauf que le changement linguistique de Paul Val et le changement linguistique de moi, c'était pas du tout la même chose, ça n'avait rien à voir. Autrement dit, autant le CEP par rapport à l'ensemble de la société, sociologue, anthropologue, etc., qui constituait le, l'idéric, non pas légitime, mais disons premier, pouvait manifester une sorte de jeu de miroir, une sorte d'écart, de différence, tout en ayant un rapport. Autant à l'intérieur même du CEP, il y avait la même fragmentation, la même différenciation, et donc c'est pour ça que je pense à une image comme celle de la maison de verre. Et alors là, je vais vous lire simplement quelques mots, une petite citation de ce que j'avais écrit dans un hommage qui a été fait à Paul Wald dans Langage et Société à l'époque. Et je dis, c'est ainsi que, sortant d'une pratique structuraliste, la conception du changement linguistique que je pouvais avoir à l'époque, c'est moi le jeu, hein, n'avait aucun rapport avec ce qu'un psychosociologue tel Paul Wald pouvait mettre sous le même terme. Or, cette saisie d'un apparent même objet, parce qu'on croit que c'est le même objet, mais ce n'est pas le même objet, ou bien est-ce vraiment le, hein, à travers les réflexions, à tous les sens du terme, réflexion qui réfléchit comme une image, qui réfléchit dans la tête, à la manière d'un miroir, que nous échangions, fut essentiel. Et alors, si vous voulez, ça nous a fait réfléchir à une certaine chose, à une certaine conception du point de vue qui avait sans doute permis de nous rendre palpables à Paul Wald, à nous, à l'ensemble que nous, que nous étions, l'existence de ce miroir sans teint que nous nous brandissions l'un à l'autre et dans lequel nous nous reconnaissions ou ne nous reconnaissions pas, où nous voyions et transformions l'autre d'une façon ou de l'autre. Miroir qui nous renvoyait continuellement à nos frontières intellectuelles et aux clôtures de nos propres constructions. Je crois que cette présentation que je fais de l'idéric en abîme, du CEP en abîme, vaut probablement aussi pour l'idéric dans sa totalité. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu les années 80, et j'ai appelé ça les années 4 pour un éclatement programmé, parce que comme je vous ai dit, après l'acmé, ben, ça casse. Hein, des confrontations, des spasmes, des régénérations, voilà. Par exemple, lettre ouverte à monsieur le directeur de l'Idéric Robert Nicolaï, avec « Puisque ton refus de t'en déplacer, d'en déplacer la date, je suis dans l'impossibilité de... » Et tatati, et tatata, voilà. Donc, vous voyez, ça démarre. Je vous ai parlé de psychodrame. Hein. voilà, réunion des collaborateurs, élection du nouveau directeur, etc., compte rendu de l'Assemblée générale, appropriation, etc., etc. Voilà, toute une série de choses qui, ça bougeait. L'idérique était quelque chose de dynamique. Et puis, évidemment, une fois que ça a bien bougé, ben, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a plus qu'à refonder les choses. Et donc, il y a eu une refonte, et nécessairement, puisque nous sommes tous là, c'est qu'on a bien fait autre chose. Gabriel Muenzi s'est orienté vers la sociolinguistique, la créolistique et la sémantaxe, qui est une notion essentielle, et je ne sais pas, peut-être que Catherine en parlera, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas le temps. non, je disais ça comme ça, hein. La sémantaxe.
Ah oui, mais je pensais que tu en parlerais.
Ben oui, bon, on partage comme ça, hein, en bon copain. Paul Wald, lui, il est parti à Paris, le laboratoire du printemps, le laboratoire printemps, l'analyse de discours. Robert Nicolaï, bon, alors c'est les contacts des langues, la dynamique sémiotique, l'épistémologie de la recherche, bon, bref, tout des trucs comme ça. Philippe Outignac, c'est la plongée dans l'urmiste, l'ethnicité, les catégories d'appartenance, et voilà, et nous y sommes. Maintenant, le tour d'horizon est bouclé, et pour ma part, comme Mohamed dit, je dirais que je crois que celui qui est parti n'est plus celui qui revient. Donc voilà. Alors pour finir, je vois qu'une chose, disons que c'est sans doute ça que peut montrer un anniversaire commémoratif comme celui que nous fêtons ou actualisons, et que c'est bien. Voilà.